Supposez qu'un matin, aux informations, vous apprenez qu'une ville dont vous n'avez jamais entendu parler a été entièrement détruite et vidée de ses habitants par un groupe extrémiste quelconque. Ça ne vous empêchera pas de reprendre une seconde tasse de café. Maintenant, imaginez Paris, Marseille, Strasbourg ou Nantes saccagées et ses rues totalement désertes. C'est très difficile à concevoir, me direz-vous. Oui, mais ça pourrait arriver. Quant aux Israélites cyniques qui prétendent que l'Éternel ne fait ni du bien ni du mal, ils vont se mordre les lèvres. Je continue à lire dans le chapitre 3 du livre de Sophonie. « J'ai éliminé des nations, démoli leurs tours fortes, rendu leurs rues désertes, et nul n'y passe plus. J'ai saccagé leurs villes, il n'y a plus personne, plus un seul habitant. » Verset 6. Les tours fortes, littéralement les angles, étaient des fortifications construites au coin des murailles qui protégeaient une ville. Très difficile à prendre d'assaut, elles donnaient aux habitants un sentiment de sécurité. Mais l'Éternel rappelle que rien ne lui résiste et qu'il a déjà jugé bien des nations. Cette menace devrait provoquer suffisamment d'effroi chez son peuple pour qu'il se repente et change de conduite. Mais il n'en est rien. Même si Sophonie ne précise pas quels furent les peuples que Dieu a frappés, ses auditeurs, eux, le savent. On pourrait citer toutes les villes éteintes cananéennes, les nations conquises par les Assyriens, dont le royaume israélite des 10 tribus du Nord qui disparut un siècle plus tôt. Je continue. Je m'étais dit alors, ainsi tu me révéreras et tu accepteras les avertissements et ainsi ta demeure ne sera pas détruite. Que de fois j'ai sévi contre elle, mais eux, dès le matin, ils se sont empressés de commettre le mal dans tout ce qu'ils faisaient. Verset 7. Malgré les châtiments répétés de l'Éternel, les Israélites leur sont restés indifférents et ont persévéré dans leur révolte contre Dieu en suivant, dès le matin, c'est-à-dire avec enthousiasme, les voies corrompues dans lesquelles leur cœur mauvais les conduisait. L'accusation portée par l'Éternel contre son peuple est lourde de menaces parce qu'il a parlé de la même manière des habitants de la terre avant le jugement du déluge. Je continue. C'est pourquoi, attendez, l'Éternel le déclare, oui, attendez le jour où je me lèverai pour le butin puisque ma décision est prise de réunir les peuples et de rassembler les royaumes pour déverser sur eux toute l'ardeur de ma colère et mon indignation, car je consumerai le pays tout entier par le feu de mon amour bafoué. Verset 8. Parce que les hommes ont méprisé la bonté de Dieu, un châtiment universel frappera le monde entier. Il aura lieu le jour où l'Éternel se lèvera. Cette planète sur laquelle nous vivons se dirige vers un jugement aussi sévère que le déluge. Que peu de gens y croient ne change rien à cette réalité. Nous allons droit vers le précipice. Le jour de l'Éternel commencera après l'enlèvement de l'Église par une tribulation qui durera 7 ans et qui se terminera par la grande bataille d'Armageddon quand Dieu rassemblera contre Jérusalem l'ensemble des nations afin de les détruire. Au jour de l'Éternel, la grâce de Dieu sera mise en veilleuse, sauf pour les personnes pieuses à qui Dieu dit de l'attendre patiemment. Après ce verset 8, l'orage est passé car la partie châtiment du livre de Sophonie est terminée. Le prophète a commencé ses oracles par une déclaration menaçante de jugement universel. Ensuite, il a parlé des châtiments qui fondraient sur Juda et Jérusalem, puis sur les nations païennes. Enfin, Sophonie a martelé le fer pendant qu'il était chaud en répétant une fois encore que Jérusalem, puis le monde entier, seraient jugés. C'est ainsi qu'il a bouclé la boucle de sa longue litanie de châtiments. Soit dit en passant, que ce verset 8 du troisième chapitre de Sophonie est le seul de l'Ancien Testament qui contient toutes les lettres de l'alphabet hébreu. C'est en tout cas ce qu'ont remarqué les Massorètes, un groupe de spécialistes de la loi juive entre les 7e et 10e siècles de notre ère. Je continue le texte. Puis je transformerai les lèvres de tous les peuples et je les rendrai purs pour qu'ils invoquent l'Éternel et qu'ils le servent tous d'un commun accord. Verset 9. Le jour de l'Éternel a commencé par la nuit du jugement, mais le soleil vient de faire son apparition et un jour glorieux se lève. L'expression d'un commun accord est littéralement d'une même épaule. Cette belle image d'hommes qui marchent au même pas et œuvrent ensemble d'un même esprit représente les Juifs et les païens qui sont réunis sous le règne de Dieu dans la même patrie spirituelle. En réalité, cette unité commence dès à présent dans l'Église. L'apôtre Paul écrit « Rendez donc ma joie complète ». Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Une fois que tous ceux qui lui sont hostiles auront été retranchés, Dieu transformera les cœurs des survivants. Leurs lèvres, qui avaient été souillées par des mensonges, des blasphèmes et les noms des faux dieux qu'ils invoquaient, offriront désormais un culte au Dieu unique et vrai et lui rendront gloire. Cependant, cette purification des lèvres a déjà lieu, et cela depuis la première venue du Seigneur, grâce à l'œuvre missionnaire de l'Église universelle qui annonce le salut et le pardon des péchés au nom de Jésus. Pour la petite histoire, sachez que Jérôme, père de l'Église et traducteur des Écritures en latin, a écrit dans ses commentaires que ce passage sur la pureté des lèvres enseignait que tous les peuples ne parleront plus qu'une seule langue et que ce serait l'hébreu. Je continue le texte. « Et d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, tous mes adorateurs, les hommes que j'ai dispersés, viendront m'apporter des offrandes. » Verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie est mentionné parce que cette contrée qui incluait le sud de l'Égypte, le Soudan et le nord de l'Éthiopie actuelle était, pour les Israélites, l'endroit le plus éloigné de chez eux dont ils avaient entendu parler. Les hommes que j'ai dispersés est littéralement la fille de mes dispersés. La multitude des Juifs éparpillés dans le monde est personnifiée sous les traits d'une jeune fille, tout comme la fille de Sion représente Jérusalem dans l'Ancien Testament. Tous les hommes, qu'ils soient d'origine juive ou païenne, viendront ensemble des quatre coins du monde à Jérusalem pour adorer l'Éternel. En fait, d'après un texte d'Ésaïe, les non-juifs encourageront et aideront les juifs à se rendre à Jérusalem et à retourner au Dieu de leurs ancêtres. Je continue le texte. « En ce jour-là, mon peuple, tu ne porteras plus la honte à cause des méfaits que tu as commis contre moi, car alors j'ôterai du milieu de tes rangs ceux qui se plaisent dans l'orgueil. » Alors tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. » Verset 11. Ces paroles s'adressent d'abord aux Israélites de la diaspora qui sont rentrés dans leur pays et qui ont foi en l'Éternel. Cependant, d'autres passages prophétiques enseignent que sous le règne du Messie, Juifs et païens seront considérés comme un seul peuple, le peuple de Dieu. Quant aux Israélites mécréants et impies que Sophonie a précédemment critiqués avec violence à cause de leurs actions viles, ils auront déjà été jugés puis éliminés. Tous les orgueilleux et ceux qui se confient en eux-mêmes ou qui ont l'argent pour Dieu seront détruits par les Chaldéens et aucune personne, ainsi décrite, n'entrera dans la Jérusalem messianique de la fin des temps. je continue. « Et je laisserai vivre au milieu de toi un peuple humble et chétif qui se confiera au nom de l'Éternel. » Verset 12. « Humble et chétif » sont deux mots qui en hébreu sont pratiquement synonymes et qu'on trouve ensemble dans l'Ancien Testament. Ils expriment un sentiment d'impuissance et d'insuffisance, d'où découle le besoin de la grâce de Dieu et donc la confiance dans le nom de l'Éternel. Cette vérité se trouve aussi dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile, c'est aux pauvres en esprit que Jésus promet le royaume des cieux. Le royaume messianique ne comportera plus rien de la gloire de l'homme. L'éclat, le faste, la para, la splendeur, le tape à l'œil cérémoniel, si courant parmi les grands de ce monde, aura disparu à tout jamais. Je continue. Les restes d'Israël ne feront plus de mal, ils ne diront plus de mensonges, on n'entendra plus dans leur bouche de langage trompeur, quand ils paîtront en paix et se reposeront sans que nul ne les trouble. Verset 13. Le petit reste rescapé des Israélites, et avec eux les non-juifs croyants, sont comparés à un petit troupeau que rien ne vient troubler. De plus, ils seront l'accomplissement de cette parole de la loi qui dit « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu ». Dans le millénium, il n'y aura plus ni fraude, ni corruption, ni oppression d'aucune sorte. Mais cet idéal de vie devrait déjà être l'objectif du croyant sous la grâce. L'apôtre Jean écrit « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. » Malheureusement, tout comme l'enfant prodigue, le croyant peut très facilement se laisser glisser dans la porcherie du péché et se salir. Mais s'il est vraiment un fils du Père, il ne s'y plaira pas et retournera dans la maison du Père. Je continue le texte. « Pousse des cris de joie, ô filles de Sion, lance un cri de triomphe, ô Israël !» « Réjouis-toi, exulte de tout cœur, ô fille de Jérusalem. » Verset 14. Ce passage est construit autour d'un triple cri d'allégresse du peuple de Dieu. Ici encore, Jérusalem est personnifiée sous les traits d'une jeune fille et les désignations « fille de Sion »,« Israël » et « fille de Jérusalem » sont utilisées comme synonymes. Bien que pour le royaume de Juda, l'avenir proche soit catastrophique à cause de l'exil babylonien, le jour viendra, sous le règne du Messie, où le petit reste d'Israël rescapé sera en liesse et fera entendre des louanges à la gloire de l'Éternel. Je continue. L'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre vous, et il a refoulé vos ennemis. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de vous. Vous ne craindrez plus de malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Sois sans crainte, Sion, ne baisse pas les bras, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. » Versets 15 à 17. Dans l'Ancien Testament, baisser les bras était un signe de découragement, de désespoir et d'angoisse. Cependant, à partir d'ici, Sophonie expose les raisons pour lesquelles les Israélites ne doivent pas baisser les bras, mais se réjouir. Premièrement, parce qu'ils sont désormais au bénéfice de la grâce, il n'y a plus de condamnation à leur encontre. C'est aussi le privilège des croyants sous la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul écrit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. N'étant plus sous le jugement, les Israélites n'ont plus d'ennemis, puisque ceux-ci étaient le bâton de la colère de l'Éternel pour les punir. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Écrit encore l'apôtre Paul. Le peuple de Dieu peut crier sa joie pour une deuxième raison qui est la présence au milieu de lui de l'Éternel en la personne du Messie, le roi d'Israël. Enfin, la troisième raison de se réjouir est l'absence de tout mal. Sous le règne de Jésus-Christ, il n'y aura plus de malheur et nul n'éprouvera plus de crainte. Je continue le texte. L'Éternel sera transporté de joie à ton sujet et il se reposera silencieux dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie. Verset 17. Maintenant que l'iniquité du peuple élu est purgée et qu'il est uni à Dieu dans la foi comme une épouse à son mari, l'Éternel trouve du repos dans la sérénité tranquille de l'amour qu'il porte à son peuple. Cependant, Dieu donnera aussi libre cours à son amour en poussant des cris de joie comme le faisaient les Israélites au moment de leur célébration solennelle. Sophonie applique à l'Éternel ses manifestations de joie et d'amour très humaines afin de montrer qu'à la fin des temps, quand Dieu aura achevé son plan pour l'humanité, on aura fait un tour de roue. On reviendra à la situation qui prévalait après la création du monde, quand Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Nous arrivons à la fin du livre de Sophonie. Dans les trois derniers versets, le texte exprime sept fois le désir de Dieu de combler son peuple de bienfaits. Étant donné que le jugement de Juda était imminent et son rétablissement lointain, l'Éternel voulait susciter l'espérance chez les personnes pieuses de l'époque de Sophonie afin de les encourager et de les réconforter. Je continue le texte. « Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui t'appartiennent et sur qui le déshonneur pesait comme un fardeau. » Verset 18. La plupart des Israélites pieux de la diaspora étaient dans la tristesse parce que pour une raison ou pour une autre, ils ne pouvaient pas se rendre aux solennités annuelles célébrées à Jérusalem. Ils souffraient aussi du fait que leur peuple était constamment menacé par des ennemis. Et bientôt, ils seront dans la plus grande angoisse quand ils apprendront que Jérusalem a été détruite par les armées babyloniennes et les habitants de Juda massacrés ou emmenés captifs. Je continue. En ce temps-là, j'interviendrai contre tous ceux qui t'auront opprimé. Je sauverai les brebis éclopées et je rassemblerai celles qu'on a chassées et je rendrai mon peuple glorieux et renommé partout dans tout pays où vous aurez connu la honte. Verset 19. Comme Sophonie l'a déjà dit, un jour, l'Éternel détruira tous les ennemis d'Israël. L'image des brebis éclopées rassemblées par l'Éternel est empruntée au prophète Michée qui écrit « En ce jour-là, l'Éternel le déclare, je rassemblerai les brebis, celles qui boitent et celles qui sont exilées et que j'ai maltraitées. » Comme tous les prophètes écrivains avant lui, Sophonie enseigne que le royaume du Messie s'étendra sur toute la terre. L'Éternel rendra son peuple glorieux et renommé partout où il a été méprisé, donc dans le monde entier, puisque l'antisémitisme est universel. On trouve cette promesse dans la loi, et je la lis. « L'Éternel, votre Dieu, veut vous élever en gloire, en renommée et en dignité au-dessus de toutes les nations qu'il a créées. Il veut faire de vous un peuple saint, comme il l'a déclaré. » Je finis le chapitre 3 et le livre de Sophonie. « En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. » Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Verset 20. Sophonie répète les promesses qu'il vient de faire parce que les jugements annoncés seront terribles et les Israélites pieux auront besoin de réconfort. À ses yeux, le règne messianique et le retour des Juifs de la diaspora sont des événements simultanés et pour bien souligner la certitude de leur accomplissement, il termine sa prophétie en signant « Dit l'Éternel ». Le regard prophétique de Sophonie voit poindre le jugement universel qui frappera le monde entier ainsi que le royaume de Juda. Celui-ci, enivré par une prospérité passagère, est tellement corrompu que seul un châtiment divin pourra le purifier. Ce jugement, qui sera exécuté par les Chaldéens, se confond dans la vision de Sophonie avec la catastrophe finale et universelle qui amènera le règne de Dieu sur terre. Aussi parle-t-il avec insistance du jour de l'Éternel qui est la pensée fondamentale de sa prophétie. Comme beaucoup d'autres prophètes et en particulier Ésaïe, Sophonie voit l'enchaînement rapide des événements des derniers temps en trois étapes. Le châtiment du peuple de Dieu par des nations païennes, le jugement de celles-ci par l'Éternel lui-même, et enfin l'apparition d'un nouveau peuple de Dieu, comprenant à la fois le reste rescapé d'Israël et les non-juifs qui se sont tournés vers l'Éternel. De tous les écrits prophétiques, c'est le livre de Sophonie qui résume le mieux toute la prophétie du peuple hébreu. Si Sophonie n'a rien à ajouter aux révélations de ses prédécesseurs concernant le Messie, il le mentionne tout de même quand il dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve ».